Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important que des fois on oublie dans la vie. On va parler de testament et de succession suite à un décès. Et avec moi pour en parler, j'ai Sabrina Martel, qui est notaire, ainsi que propriétaire de CSM Notaire, qui ont des bureaux à Dolbeau et à Normandin. C'est bien
oui,
ça?
Exactement.
Et que je suis bien informé. Je pense que je t'avais posé les questions avant. Donc, Sabrina, testament, succession, c'est quelque chose... On attend trop longtemps avant de se pencher là-dessus. Est-ce que ça se peut, ça?
C'est souvent... c'est un mal nécessaire, je dirais.
Ouais, c'est ça, oui.
Mais c'est souvent... C'est quelque chose qu'on va reporter un petit peu. Là,
on n'a comme pas le goût de penser à ça.
C'est rare qu'on a le goût de parler de notre succession, de notre testament, un peu comme décès, là, tout ce que ça implique. C'est rare qu'on a hâte de parler de cet aspect-là de notre vie, mais qui est non négligeable.
Puis pourquoi c'est important d'y penser plus tôt que plus tard?
Bien, en fait, plus tôt on planifie le tout, mieux c'est. En fait, là, souvent, j'ai des clients que je rencontre qui me disent... je suis trop jeune pour faire ces documents-là, je vais attendre un petit peu, mais au contraire, quand on a des jeunes enfants, quand on fait l'achat d'une maison, tout ça, bien évidemment, c'est important là, de planifier là, notre succession, qu'est-ce qui arrive en cas de décès, parce que des fois, on peut faire face à des situations qui sont qu'on voudrait pas qu'elles arrivent, là, finalement.
OK. C'est quoi les... Mettons, là, parce que j'imagine les gens, justement, ils font, je suis pas rendu là, pas le goût de parler de ma mort... mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, tu sais.
Non.
Et puis, quel problème peut y avoir si on n'y a pas pensé, tu sais, au moment où on y pense trop tard ou je sais pas, là, on...
Bien, on peut parler, entre autres, je vais donner un exemple. Par exemple, un jeune couple qui fait l'acquisition d'une maison. Souvent, les gens, vont acheter la maison, ils ont des enfants, tout ça, planifieront pas, feront pas leur testament nécessairement. Suite à ça, arrive un décès, soit monsieur, soit madame décède avec des jeunes enfants. Les gens sont mal informés, puis souvent ne sauront pas que le conjoint de fait, le conjoint avec qui on n'est pas marié au Québec, n'est pas reconnu encore dans la loi.
Okay.
C'est un petit peu archaïque. Nous, notre Code civil au Québec date de 1994, donc il est calqué sur le Code civil du Bas-Canada, qui est calqué, lui, sur le Code de Napoléon. Nous, au Québec, notre droit provient de la France, contrairement ailleurs au Canada, où est-ce qu'on parle plutôt de la common law. Oui, exactement. Des notaires, il y en a juste au Québec. Il n'y en a pas ailleurs au Canada. Moi, je ne pourrais pas aller travailler soit aux États-Unis ou au Canada, non. Donc, nous, ça provient de la France, une province, on a une province qui est de droit civiliste. Et puis, dans notre Code civil du Québec, les conjoints de fait ne sont pas reconnus.
OK.
Donc, le conjoint ou la conjointe survivante n'hériterait pas de cette maison-là dans un contexte où est-ce qu'on n'a pas de testament.
OK. Mais la maison irait où?
La maison irait, la maison et tous les biens de la personne décédée reviendraient à ses enfants.
Ah, OK.
Comment ça fonctionne quand on n'a pas de testament?
Oui.
Donc, souvent, les gens me demandent, qu'est-ce qui arrive si je décède puis que j'ai pas de testament? Donc, c'est le Code civil qui va venir nous dire qui hérite et dans quelle proportion en fonction du schéma familial de la personne décédée. Donc, je vous donne un exemple. La personne décède, on va demander, est-ce que la personne était mariée? Est-ce qu'elle avait un conjoint, un époux ou une épouse survivant, premièrement? Deuxièmement, est-ce que la personne avait des enfants? Donc là, si on répond oui, les enfants vont récolter 100% de la succession. S'il y a un époux, une épouse, donc les proportions vont changer en fonction de cette situation-là familiale de la personne décédée.
Okay.
Je vous donne un exemple bien simple. À un moment donné, j'ai une personne, elle a perdu son mari. Elle n'avait pas d'enfant.
Okay.
Elle se disait, moi, je suis mariée, on s'est mariés, on a fait nos papiers, tout est réglé. Or, ce qui est arrivé, monsieur décède, la personne, finalement, va penser qu'elle hérite. Mais en réalité, c'est pas ça qui va arriver. C'est tous les frères et sœurs de monsieur qui vont aller chercher une partie de la succession et madame va aller chercher une autre partie de la succession. Or, là, ça devient plus compliqué. On doit faire un bilan de la succession pour que les frères et sœurs sachent ce dont il pourrait hériter pour finalement peut-être renoncer, peut-être pas renoncer. Des fois, on peut faire face à des situations qui sont un petit peu délicates là, dans ce contexte-là. Fait que oui, une bonne planification successorale, là, c'est très important. Là,
Fait que dès qu'on a des enfants, qu'on s'achète une maison, ou qu'on se marie ou qu'on est avec quelqu'un depuis, qu'on devient conjoint de fait, ça serait important, peu importe l'âge, ça serait important de se faire
un testament. Oui, souvent, l'élément déclencheur va être l'étape de l'achat de la maison parce qu'il va avoir une première rencontre avec un notaire. Puis, tu sais, des fois, on va vérifier avec le client, avec vous, tu sais, Quelle est votre situation familiale? Avez-vous des bonnes protections? Avez-vous une assurance pour payer le prêt de votre maison si jamais vous décédez? Des choses comme ça. Fait que ça va être un peu un élément déclencheur pour démarrer là, ce processus-là là, de planification là, testamentaire. Là,
OK.
Oui.
OK, parfait. Bon, comment, par quoi on commence? Aller te rencontrer, j'imagine?
Oui,
oui,
ça prend toujours un premier rendez-vous.
Okay.
En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a toujours un premier rendez-vous d'entrevue qui dure en moyenne d'une heure à 1h30. Souvent, on va bloquer une période, une plage d'une heure trente pour pas être pressé. À cette rencontre-là, souvent, les gens vont dire, bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter? Souvent, on va demander aux clients de vérifier, tu sais, leurs produits d'assurance vie. Après ça, vérifier un petit peu au niveau de leur placement. Est-ce qu'ils ont des REER? Est-ce qu'ils ont des CELI? De vérifier ça. Puis des fois, les gens apportent leurs papiers là, directement au bureau. Ensuite de ça, bien, lors de cette première rencontre-là, on jase. Là. On jase comme vous et moi, puis tu sais, on apprend à connaître notre client. Le client apprend aussi à nous connaître. Des fois, les gens y arrivent super stressés aussi, mais c'est
bien,
vraiment
c'est
pas. Mais c'est pas stressant. Oui. Tu sais, je comprends qu'on parle de décès et tout là, mais faut pas voir ça là comme une grosse montagne là. Tu sais, souvent les clients vont terminer la rencontre avec nous, vont dire c'est déjà fini. Mon Dieu, ça a bien pas été compliqué. J'étais stressée, j'ai pas dormi hier, puis.
Finalement, c'est une procédure qui est complexe, mais relativement simple, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est relativement simple. T'sais, nous, on a des questionnaires d'entrevue, puis on sait un petit peu où est-ce qu'on s'en va. T'sais, on va chercher notre information, puis on y va étape par étape. T'sais, au début, on prend les renseignements personnels de la personne. Ensuite de ça, on va vérifier le schéma familial, justement, avez-vous des enfants? Sont-ils majeurs? Sont-ils mineurs? Parce que t'sais, il peut avoir une incidence dans la planification testamentaire de la personne. T'sais, souvent, les gens ne voudront pas nécessairement que leurs enfants mineurs reçoivent une somme considérable d'argent. Souvent, on va prévoir des clauses d'administration prolongées ou est-ce qu'on va reporter la remise des liquidités aux enfants plus tard si jamais les deux parents sont décédés, par exemple.
OK. Là, c'est le genre de clause de dire, par exemple, mon enfant a 11 ans et puis il va avoir le droit de toucher cet argent-là quand tu seras majeur. Ou je mets dans un fonds d'études. Ou tu sais, je sais pas. C'est toutes des choses qu'on pourrait faire.
C'est ça, exactement. Des fois, on va prolonger la remise du capital dans le temps, c'est-à-dire dire une partie à 18 ans, une partie à 21 ans, une partie à 25 ans, par exemple.
Okay.
Et des fois, nos enfants sont différents aussi.
Okay.
Fait que les gens, tu sais, c'est sûr que quand on parle d'une planification quand ils sont petits, ben là, on sait pas trop. Mais des fois, quand c'est à l'adolescence, les gens disent, OK, ouais. J'ai peur pour le décrochage scolaire, des choses comme ça. Peut-être qu'à 18 ans, j'aimerais ça que mes administrateurs reportent un petit peu la remise du capital si jamais ils jugent que c'est pas une bonne idée de le remettre en entier ou en partie à 18 ans. Fait que des choses qu'on va pouvoir planifier.
Fait qu'on peut déléguer des pouvoirs comme ça. Ces pouvoirs-là, quand je délègue à vous?
Non. C'est une bonne question.
Ouais.
En fait, on va prévoir dans le testament, là, le testament. En fait, il y a plusieurs parties. Il y a des clauses que le notaire va mettre à l'intérieur où est-ce que on va essayer d'informer un petit peu plus le liquidateur de la succession de c'est quoi la marche à suivre. Parce que, tu sais, le liquidateur de la succession, lui, va pouvoir se faire assister par un
liquidateur de succession, c'est quoi? C'est
comme un, je vous dirais, c'est le maître d'œuvre de la succession. C'est la
lui,
personne...
c'est son travail, là, c'est son titre, tout ça. J'avais jamais entendu ça.
Oui, le liquidateur, autrefois, on l'appelait l'exécuteur testamentaire.
Ah, d'accord, OK. Là, ça m'amène
quelque chose. Exécuteur, je dirais que c'est des synonymes. Puis c'est la personne, le maître d'œuvre, la personne qui va s'occuper de la paperasse.
Ouais.
Qui va s'occuper de parler avec le comptable, avec le notaire, le directeur de funéraire de la maison funéraire, qui va s'occuper de faire les rapports d'impôts à la fin de la personne décédée. Fait que souvent, le liquidateur qu'on va nommer, idéalement, il faut que ce soit une personne en qui on a confiance.
Je peux comprendre.
Puis une personne qui est à l'aise aussi avec cet aspect-là, paperasse, là.
Ouais.
Tu sais, pas quelqu'un qui aime pas ça du tout, là. Tu sais, souvent, les gens disent, ouais, mais là, j'ai pas nommé mon fils, puis j'ai nommé ma fille. Ma fille est plus jeune que mon fils. As-tu bon sens, notaire, de nommer ma fille en premier et non mon fils? Premièrement, j'ai pas d'opinion.
Ouais.
Je donne pas mon opinion lors des rencontres. Mais deuxièmement, tu sais, je rappelle aux clients que c'est pas un cadeau qu'on fait à nos enfants, là. Je veux dire, si on nomme la fille plutôt que le garçon dans le testament, souvent, c'est peut-être parce que la fille va avoir plus de facilité, elle va être plus proche. C'est ça, exactement.
Parce que nous, on a vécu ça. Là, quand ma mère est décédée, mon père a refait toutes ces choses. Moi, je suis plus proche de lui géographiquement, mais ma sœur est comptable dans la vie. Fait que pour elle, c'est beaucoup plus facile de gérer ça que pour moi qui comprend pas trop les affaires.
Oui, c'est ça. Donc, le liquidateur. Fait que je reviendrai peut-être à parler un petit peu des parties du testament,
ouais,
de comment
est-ce
que c'est construit un testament. Un testament, c'est un document qu'on fait à l'avance.
Okay?
Un document à l'avance. Donc, une fois qu'il est signé, il ne faut pas avoir peur, on ne décédera pas.
Oui.
Oui, non, ça n'arrivera pas.
Important de le dire.
Je dis tout le temps au client, ça n'arrivera pas. Même si le client, des fois, va venir un petit peu de reculons au bureau, ben, tu sais, évidemment, ça ne nous fait pas mourir. Fait que le document, une fois qu'il est signé, après la première rencontre d'entrevue, le notaire va avoir l'étape de préparation du document. Des fois, on va envoyer un projet par courriel. Des fois, les gens aiment le lire la tête reposée ou venir chercher une copie projet au bureau. Puis après ça, on a l'étape de la signature.
OK.
OK? Fait que si je reviens au testament, une fois qu'on a eu la rencontre de signature officielle chez le notaire, donc le testament, il dort. Il entre en vigueur au moment X, qui est le décès.
Est-ce que ça veut dire que même si c'est signé, 3 ans plus tard, je sais pas, moi, je change d'idée sur une affaire, je peux revenir te voir pour faire...
Tout à fait.
Finalement, mon skidoo, je le donnerai à mon beau-frère.
Tout à fait, tout à fait. Exactement. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, on va recommander que les gens revérifient leurs papiers, leurs documents, tu sais, aux 3 ans, aux 5 ans. Okay. Ou quand il arrive quelque chose de significatif. Je donne un exemple. Bon, un couple vient de me rencontrer. Le couple se sépare quelques années plus tard. Souvent, chacun Madame et monsieur vont retourner là, chez le notaire pour replanifier un petit peu là, les choses à l'intérieur du testament. Okay. Donc, quand il arrive quelque chose de significatif dans notre vie, dans les étapes de notre vie, bien, on recommande de revérifier là, nos papiers comme il faut pour que ça corresponde bien à nos volontés. Donc, oui, un testament, ça peut être modifié en tout temps.
OK.
Fait que, tu sais, même si je rencontre un couple, chacun est libre de faire son testament comme il veut.
Ou séparément ou ensemble.
Oui, c'est ça, exactement. Okay. Tu sais, souvent, le couple va venir me rencontrer par la même occasion, mais évidemment, chacun est libre de faire son testament différent. Okay. Souvent, quand ils ont des enfants communs, le testament va se ressembler un petit peu, à quelques exceptions près. Mais souvent, là, ça va se ressembler. Exactement. Mais chacun est libre de modifier son document. On a une liberté de tester, nous, au Québec. Puis cette liberté-là, bien, on y tient dans la loi. Donc, moi, je peux refaire mon testament autant de fois que je le souhaite.
Puis, qu'est-ce qu'on met dans un testament? Est-ce que, bon, une fois que je suis mort, là, je comprends la succession, là, la séparation des biens, on met ça là-dedans. Donc,
Oui, on va identifier bien, les personnes qui vont hériter là-dedans. Oui. Des fois, on va avoir une clause qui va parler des dispositions funéraires. C'est pas une obligation de le mettre à l'intérieur du testament. Des fois, ça va soulager un peu les personnes qui viennent. Tu sais, des fois, on voyait dans les plus anciens testaments, on voit souvent une phrase qui dit « Je me remets en toute confiance à Dieu et je lui prie de me faire miséricorde. » c'est des choses qu'on voit dans les testaments. Puis souvent, il va y avoir une petite clause comme quoi on mentionne si on souhaite être incinéré, si on souhaite être enterré, si on a des demandes particulières, est-ce qu'on souhaite un service de nature religieuse.
Là, tu dis si on souhaite, ça veut dire que c'est pas, tu sais, je peux pas dire c'est ce que je veux. Donc, si j'ai un souhait, ça se peut que ça marche pas.
Bien, en fait, le principe, c'est qu'au moment du décès, les funérailles, c'est souvent la première étape.
Ouais.
OK? À cette étape-là, on n'a jamais la certitude que le testament qu'on a entre les mains du côté de la famille, c'est le dernier. Parce qu'on doit faire ce qu'on appelle les recherches testamentaires au Québec.
Ah, OK.
Donc, la recherche testamentaire, c'est une recherche qu'on fait à 2 endroits. Premièrement, on l'a fait à la Chambre des notaires du Québec parce que les notaires peuvent recevoir des testaments. Et on fait la recherche aussi au barreau du Québec parce que les avocats aussi peuvent recevoir des testaments qui valent comme testament devant témoins.
OK.
Donc, on fait la recherche testamentaire, mais le délai de réception de cette recherche-là varie souvent entre 2 à 3 semaines.
Donc,
souvent la famille va avoir déjà signé le contrat avec la maison funéraire, va avoir déjà réglé cet aspect-là. Fait que le directeur funéraire de la maison funéraire n'aurait pas nécessairement entre les mains la confirmation que c'est le dernier document. Fait que de mettre des volontés testamentaires à l'intérieur, des volontés funéraires à l'intérieur du testament, ça n'a pas de plus de value.
Okay.
Mais des fois, ça sécurise les gens. Des fois, ils le précisent un petit peu à l'intérieur. Mais souvent, ce que je dis aux gens, si vous voulez vraiment être certain, bien, vous pourriez faire votre préarrangement funéraire, vous régler votre testament, puis je vous réfère aux 2 maisons funéraires qu'on a ici dans le secteur pour peut-être aller discuter un petit peu de ça, puis voir là, quelles sont les choses qui s'offrent à vous là, en matière de mode de disposition du corps puis de cérémonie.
On a-tu le droit de mettre des trucs étranges. Là, je t'explique. Moi, j'ai un ami qui m'a toujours dit, moi, si je meurs, j'aimerais savoir un enterrement viking qu'on me mette sur Et mon cadavre sur un radeau qu'on mette en feu puis qu'on envoie ça dans le lac Saint-Jean.
Non, il y a... Il y a quand même
on peut pas faire n'importe quoi, là.
Tu sais, je vais donner un exemple. Souvent, les cimetières vont voir... Bien, tu sais, il y a quand même de la réglementation. Des fois, on voyait, tu sais, des gens qui voulaient, planter des arbres. Là, on se rend compte que des fois, les racines, ça peut poser problème dans les cimetières si on veut planter un arbre puis déposer les cendres au pied de l'arbre, des choses comme ça. Autre chose qu'on peut voir dans la réglementation, tu sais, on pourrait pas dire, moi, je veux faire enterrer mon urne en arrière de la maison.
Oui, c'était ça ma question. Moi, j'aurais aimé ça.
Malheureusement, non. Je crois que les maisons funéraires peuvent donner des quantités de cendres où est-ce qu'on peut-être en disposer à des endroits significatifs, symboliques. Mais par contre, en termes de contenant, on ne pourrait pas en disposer comme on veut. Là.
Donc, la loi régit vraiment bien.
Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, je référais un petit peu plus à la maison funéraire par rapport à ces procédés-là ou à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est moins mon créneau
non,
à
non,
moi.
Non, je comprends, mais au moins, tu as répondu à la question. Là, fait que mon rêve de me faire empailler comme une piñata, ça ne marchera pas.
Je pense pas, non.
Excusez, je me trouve drôle. OK. Fait que là, ça, c'est dans le testament. Après ça, on a tout ce que... C'est nos avoirs, en fait, là.
Oui. Dans la planification du testament, on va avoir des clauses. On va parler de legs. Legs, c'est le mot juridique pour dire « je transfère mes biens à telle personne ou telle personne ». Il existe deux principaux legs. Il y a plusieurs legs spécifiques à l'intérieur du testament, mais deux principaux où est-ce que je vais vous faire la nuance avec des exemples. Ça va peut-être être plus clair pour monsieur et madame à la maison. Là. Donc, il existe le leg particulier. Donc, le leg particulier, je vous donne un exemple, c'est le fait de transférer un bien à code décès, un bien particulier à une personne particulière. Donc, si je dis, moi, je lègue ma tasse ici à mon frère, donc je vais faire un leg particulier dans mon testament. Donc, la tasse est un bien particulier, mon frère une personne particulière. Par contre, c'est difficile de faire notre testament en énumérant tous les biens qui nous appartiennent parce qu'évidemment, ces biens-là, on va les remplacer au fil du temps. Moi, j'achète une auto, je vais la remplacer par un camion, etc. Fait que ça serait difficile. On retournerait tout le temps chez le notaire dans ce contexte-là. Ouais. Moi, je me plains pas, mais... mais on aurait toujours besoin de retourner chez le notaire pour mettre à jour ce testament-là quand on vend ces biens-là. Donc, il y a toujours la nécessité dans le testament de venir prévoir un peu un ensemble de biens présents et futurs, incluant les dettes qui se rattachent à ces biens-là. On appelle ça le leg universel. Okay. Donc, je vous donne un exemple. Je lègue tous mes biens à mon conjoint. Et si mon conjoint est décédé avant moi, je lègue tous ces biens-là à mes enfants en part égale.
Okay.
Donc, ça, c'est un leg universel. Ça comprend tous les biens présents. Tu sais, aujourd'hui, je sais qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine. Mm-hmm. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, bien, ça va inclure les mêmes biens et toutes les dettes qui peuvent se rattacher à ces biens-là.
Parce que les dettes, ils sont léguées aussi.
Oui, bien, dans un contexte de legs universel, oui. Dans un contexte de legs particulier, je dois le préciser.
Okay.
Donc, si je dis je lègue mon auto à mon frère, je devrais mettre dans mon legs particulier que mon frère est responsable aussi de la dette. Fait que des fois, c'est quelque chose à faire attention dans la planification.
Là, je vais peut-être me trouver absurde, mais est-ce que j'aurais le droit de faire, bon, je lègue tout ça à mes enfants et je lègue mes dettes à quelqu'un que j'aime pas? Non, mais c'est peut-être niché mon affaire, mais ça...
Je ne l'ai jamais vu.
OK.
Je ne l'ai jamais vu, mais oui, on pourrait scinder les choses de cette façon-là, mais évidemment, la personne serait libre de renoncer.
Ah, elle a le droit de refuser.
Oui, c'est ça, évidemment.
Ah, OK, ça, je ne savais pas.
On a le droit de refuser, de renoncer à une succession.
Là, OK. Surtout dans ce cas-là, ça serait une bonne idée. Tu dis, mais... Tu sais, moi, là, ce que je comprends, mettons, moi, j'ai une grosse collection de bandes dessinées. Okay? Là, je pourrais la léguer à tel ami qui aime la bande dessinée parce que mes enfants ne s'intéressent pas à ma collection. Fait que je pourrais faire ça. Dans le cas que je ne le fais pas, puis tu me dis, bien, je sépare mon legs également entre mes enfants, comment on évalue ça? Parce que, tu sais, ma collection de bande dessinée, elle vaut. Mais pour qui? Dans le sens, quelqu'un qui ne traite pas sa bande dessinée, il ne réalise pas ce que ça peut valoir. Puis là, si on le sépare, tu sais, bon, ça vaut pas le même prix que ma vaisselle, là. Je niaise, mais en même temps, tu comprends, comment on fait pour séparer ça de manière égale quand c'est des biens matériels?
Souvent, on va essayer de déterminer, comme vous dites, la juste valeur marchande de cette collection-là que vous pourriez avoir. Or, c'est certain que si on dit, bien, je lègue tous mes biens à mes enfants en part égale, puis supposons que dans l'exemple, on a 4 enfants.
Okay.
On va essayer de faire des lots équitables. Si on n'a pas fait des legs particuliers ciblés en faveur de chacun des enfants, bien, on va essayer de faire des lots. Le liquidateur va faire une proposition de partage en faveur de tous les enfants. Okay. Et là, on va avoir le lot A, B, C, D pour les cases, chacun des quatre enfants. Souvent, les enfants vont pouvoir revendiquer certaines choses, dont la collection de bandes dessinées. Et là, c'est sûr qu'on va devoir attribuer une valeur à cette collection-là. Ouais. Donc, si on n'est pas capable, ou d'un commun accord, on n'est pas capable d'établir cette valeur-là, le liquidateur est toujours libre de faire affaire avec une firme spécialisée. T'sais, le liquidateur est libre d'engager un agent d'immeuble pour vendre la maison. Okay. D'engager une firme qui va évaluer souvent des tableaux, des objets de grande valeur. Bien, il y a des firmes qui sont vraiment spécialisées au Québec pour faire ce type d'évaluation, ou même aider dans l'étape pour dresser un bilan de la succession.
Fait que vous êtes conscient que des fois, il y a des objets ou des choses qui ont de l'air peut-être de ne pas avoir de la valeur, mais qui peuvent en avoir. Vous êtes au courant de tout ça?
Tout à fait.
C'est comme l'or, par exemple. Il y a des gens pour qui l'or, ouais, pourquoi tu as payé tant pour, ben, parce que c'était l'artiste ou, donc, vous êtes conscient de tout ça, là, quand vous faites la séparation.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement le notaire qui va faire la séparation du patrimoine. Tu sais, le liquidateur peut mandater le notaire parce qu'évidemment, après la recherche testamentaire, on va rencontrer le liquidateur de la succession pour lui présenter les résultats de la recherche. Et là, souvent, il va avoir une opportunité de faire une lecture du testament avec et en présence des proches. Okay. Et là, à cette étape-là de lecture du testament ou d'explication de comment va se passer la succession, ben là, après ça, on convient avec le liquidateur et ou les héritiers aussi de quel est le mandat qu'on donne au notaire. Est-ce que le notaire va s'occuper de toutes les étapes de la succession jusqu'au partage final? Okay. Ou le liquidateur, c'est une personne qui a de la facilité, où il y a, tu sais, la succession n'est pas très complexe, puis le liquidateur, lui, il va dire, ben regarde, si j'ai tes questions, notaire, est-ce que je peux te rappeler? Oui, mais moi, je me sens à l'aise de régler les choses parce que c'est pas très complexe. Ma mère est décédée, elle avait plus de maison, elle avait plus d'auto. Je m'occupais déjà de ses impôts, ouais. J'avais une procuration bancaire, tu sais, c'est j'hérite de tout. Donc, des fois, c'est des successions qui sont relativement simples. Où est-ce que le liquidateur n'aura pas nécessairement besoin de nos services plus tard? Par contre, si la personne avait une maison, ben forcément, le notaire va avoir une déclaration, qu'on appelle une déclaration de transition, pour transférer la maison du patrimoine de la personne décédée à la succession. Donc, de faire le lien par rapport à cette maison pour qu'après coup, on soit capable peut-être de la vendre ou de la repartager avec les enfants.
OK. Est-ce que... c'est important, quand tu as fait ton testament, d'en parler aux gens à qui tu lègues des choses. Pour éviter, par exemple, là, j'ai trois enfants, puis là, les enfants se chicanent parce qu'ils disent mais papa, il m'avait dit qu'il allait me le laisser, puis dans le testament, il te le laisse à toi. Tu sais, y a-tu d'en parler un peu comme le don d'organes, là, c'est niaiseux, mais de mettre les gens au courant où on est mieux de ne pas le faire?
Bien, moi, je dirais que la transparence, ça enlève beaucoup d'effet de surprise. Fait que ouais. Le fait que la personne planifie son testament puis implique ses enfants là-dedans, des fois, ça peut être facilitant, ça peut être rassurant. Puis d'expliquer les choses, pourquoi. Tu sais, je vous donne un exemple. Si j'ai une personne qui est agriculteur, puis les terres, il les donne à son fils aîné, mais pour quelle raison il fait ça, puis pourquoi...
Parce que c'est peut-être le seul qui est intéressé à reprendre la terre.
Peut-être, parce que argent, émotion, famille... Souvent, c'est synonyme de conflit. Ouais. Puis quand arrive un décès, bien c'est ça, il arrive beaucoup d'émotions, puis l'effet de surprise, des fois, ça peut faire en sorte qu'il y a des vieilles querelles de famille qui peuvent ressortir, tout ça. Donc, c'est sûr qu'une planification bien préparée, où est-ce qu'on va informer nos proches de cette démarche-là, bien des fois, ça va enlever un petit peu là, de cet aspect-là de surprise. Des fois, ça pourrait être facilitant, puis éviter là, des sources de conflit. Mais, tu sais, on fait face, moi, j'ai des clients de... Pour toutes les générations, je dirais que peut-être les générations un petit peu plus jeunes sont plus ouvertes à parler des affaires, okay. D'argent,
oui.
De ces choses-là, alors que j'ai certains clients que peut-être c'est un petit peu plus tabou. Nous, qu'est-ce qu'on fait au bureau, c'est que souvent, après la rencontre de la planification testamentaire, on remet une feuille à nos clients pour qu'ils puissent indiquer dessus, bon, sont où leurs comptes bancaires, sont où leurs assurances, sans nécessairement faire le bilan puis mettre les montants à côté, mais au moins, c'est comme une feuille de route pour le liquidateur de la succession pour que, quand il trouve le testament, quand il a copié tout ça, bien, au moins, il y a un petit peu là, l'information de qui contacter puis où est-ce qu'il doit chercher.
Une espèce de marche à suivre.
Oui,
parce
que des fois, il y a des gens qui... Ben, ils ont des coussins de sécurité. On parle des fois des bas de laine cachés.
Ouais.
Si on ne le mentionne pas à nos proches, bien évidemment, on peut ne jamais retrouver ces biens-là. Donc, c'est sûr que moi, si j'avais une recommandation à faire, c'est un petit peu la transparence ou du moins d'informer nos proches de où est-ce qu'ils sont nos documents. Je donne un exemple, si la personne a un classeur, qu'elle a une petite pochette rouge puis que tous les papiers sont là-dedans, bien qu'au moins le premier liquidateur ou même le second en remplacement sache qu'il y a un testament, puis où est-ce qu'il est sans nécessairement voir le contenu.
Comme moi, mon père, quand il est allé signer son testament, je suis allé avec, puis là, la notaire m'a tout expliqué pour être certain que j'étais au courant, justement, là, de tout ça. OK. Là, j'avais une autre question. J'ai beaucoup de questions.
Oui.
Est-ce que ça arrive que tu es rendu au testament et là, on sépare ce qui est mis dans le testament, puis que là, maintenant, il y a quelqu'un qui fait « Ouais, mais pourquoi son chalet au kilomètre 48, il n'est pas là-dedans? » Tu sais, est-ce que ça arrive qu'on oublie des choses, puis que là, maintenant, il y a des revendications ou souvent, ça va être compris dans tous mes liens, on
ça
les sépare?
Ça va être souvent compris dans le legs universel parce que le liquidateur, quand il va débuter son travail, une fois qu'on a fait les recherches testamentaires, on identifie les héritiers, on fait la lecture du testament, tout ça, bien là, il va avoir les premiers conseils là, qui vont être donnés par le notaire là, pour savoir un petit peu où s'en aller, l'ouverture du compte de banque, entre autres. Puis après ça, le liquidateur, là, lui, est en mode investigation. Il va recevoir par la poste des lettres, une carte de crédit, des choses comme ça. Puis son travail, c'est de dresser un bilan sommaire des actifs de la personne décédée et du passif de la personne décédée pour faire ce qu'on appelle un inventaire successoral. Cet inventaire successoral-là, des fois, il est négligé un petit peu. Des fois, les gens ne le savent pas puis ils ne savent pas tout le temps à quoi ce à quoi il sert. Là,
finalement. Ouais.
Donc, l'objectif de l'inventaire de la succession, c'est vraiment de dresser un portrait préliminaire de qu'est-ce qu'on a dans la succession pour permettre aux héritiers de savoir ça et de dire, est-ce qu'on accepte la succession? Ou est-ce qu'on la refuse plutôt?
On a le droit de refuser la succession?
Oui, on a le droit de refuser une succession, tout à fait. On a le droit. On doit aller voir un notaire pour refuser la succession. Donc, c'est obligatoirement fait par acte notarié. Et après coup, oui, on est libre de renoncer ou d'accepter cette succession-là.
Qu'est-ce qui arrive si tout le monde refuse?
En fait, si tout le monde refuse, là, on ouvre un dossier à la direction des biens non réclamés au gouvernement du Québec. Oui. En fait,
si
il y a des successions qui pourraient ne jamais être réclamées avec des milliers de dollars à l'intérieur.
Okay.
Donc, c'est le gouvernement, la collectivité qui se retrouve avec ce dossier-là, finalement. Okay. Là. Fait qu'on parle vraiment de la direction des biens non réclamés à Revenu Québec. On ouvre un dossier-là et finalement, eux peuvent procéder à la liquidation de la succession, d'identification des créanciers de la succession, la proposition de partage en fonction de l'ordre de
Donc, ça doit davantage arriver quand la personne, mettons, est seule, elle n'a pas d'enfant et tout seul. Ça
peut arriver dans ces contextes-là. Des fois, on peut faire face à une succession où est-ce que les enfants savent pas trop qu'est-ce que leurs parents avaient comme actif, passif. Finalement, on peut avoir peur d'accepter la succession. Des fois, les gens préfèrent juste y renoncer ou parce qu'il y a eu des conflits familiaux, ils ne veulent pas du tout avoir affaire à la succession du proche parent qui est décédé. Okay. Donc, c'est des choses qu'on va voir là, pour la renonciation. Mais l'étape de l'inventaire va nous permettre de savoir un petit peu. C'est pas toujours un portrait exact parce qu'on se positionne au moment du décès. Fait qu'évidemment, après le décès, il peut y avoir une fluctuation au niveau de l'actif, du passif. Mais ça nous donne l'heure juste pas mal, là, savoir est-ce qu'on a une succession qui est vraiment déficitaire? Est-ce qu'on est à la limite de l'actif et du passif ou est-ce qu'on est vraiment dans le positif? Est-ce que la succession, est manifestement solvable ou non?
Oui.
Et là, les héritiers vont pouvoir se positionner. Et souvent, cette étape-là de l'inventaire n'est pas toujours faite par le liquidateur, mais elle devrait être faite, non seulement pour permettre aux héritiers de faire la bonne option, finalement, d'accepter ou de renoncer à la succession, mais aussi quelque chose qui est méconnu un petit peu. Dans la loi, le législateur dans le Code civil du Québec prévoit une disposition dans laquelle il dit bien, si le liquidateur n'a pas fait l'inventaire de la succession et qu'il y a des biens de la succession qui sont transférés aux héritiers sans avoir fait ce bilan-là, bien, les héritiers vont être personnellement et solidairement responsables des dettes de la succession, même au-delà de la valeur des biens qu'ils reçoivent. Donc, je donne un exemple. Les héritiers reçoivent chacun 5 000. Supposons qu'on avait 20 000 puis il y a 4 héritiers. Mmh. Ils acceptent ça, on transfère les liquidités. On n'a pas fait l'inventaire de la succession selon ce que la loi nous prescrit. Bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si jamais on a une surprise ou une poursuite contre la succession, bien, les héritiers vont être chacun tenus de restituer le montant, mais aussi de payer l'excédent de ce qu'ils ont reçu pour couvrir les dettes de la personne décédée. On parle normalement dans une succession, il y a le patrimoine des héritiers, le patrimoine de la personne décédée. Donc, on bénéficie de la séparation des patrimoines. Mais quand on ne fait pas le bilan, ouais. Le législateur nous tape sur les doigts et dit « Vous ne bénéficiez plus de cette séparation-là de patrimoine. Le patrimoine de la succession, le patrimoine des héritiers deviennent un tout et les créanciers sont réclamés. » Okay. Donc, des fois, on pourrait avoir, bon, monsieur décède, madame, elle a vécu, ça fait 50 ans qu'elle était mariée avec son mari. Elle dit « Ben nous, on n'avait pas de dette, on n'avait pas grand-chose, mais on n'avait pas de dette. Puis, tu sais, j'estime qu'il n'y a pas de risque d'accepter cette succession-là et je ne ferai pas le bilan de la succession, je ne ferai pas l'inventaire. Ouais, ouais. » Parce que, bon, ça engendre des coûts supplémentaires, mm-hmm. puis du temps, puis c'est compliqué pour rien. Mais monsieur, lui, avait installé, je donne un exemple, un réservoir d'huile à chauffage, puis il a vendu quelques années auparavant la maison familiale avec garantie. C'est la maison s'est revendue, ouais. puis à un moment donné, on se rend compte que le réservoir d'huile à chauffage a coulé depuis plusieurs années, puis que le sol est contaminé. Exactement. Ouais. Fait que la pauvre madame a accepté la succession, n'a pas fait l'inventaire de la succession. Elle reçoit une poursuite contre la succession de milliers de dollars, mm-hmm. donc en vice caché. Elle, ouais. elle, il y avait une garantie légale qui était donnée. Et là, elle doit répondre à ça, puis elle se dit, ben moi, je vais renoncer à la succession.
Mm-mm. Trop tard.
Trop tard. Exactement. Fait que des fois, c'est, on peut avoir une succession qui est dans le positif, mais avoir quand même un risque latent là, par rapport à ces choses-là. Là.
Quand on fait l'inventaire de ce qu'on a pour faire notre testament, j'imagine qu'on met pas tout, là. Tu sais, dans le sens où, bon, ma collection, là, ça vaut quelque chose, mais je dis pas, je vais léguer mes brosses à dents puis mes vieux sous-vêtements, là. Tu sais, on s'entend.
C'est ça. Tu sais, on y va souvent avec un portrait global, une valeur estimée des, tu sais, on identifie les meubles, etc., à l'intérieur. Dans le Code civil du Québec, tu sais, le Code civil du Québec, il date de 1994. Fait que je dirais que la valeur qui est attribuée là-dedans est peut-être pas à jour, mais on parle qu'on ne serait pas tenu d'énumérer les biens en bas de 100 $.
OK.
Si je donne mon opinion par rapport à ça, j'aurais tendance à dire que ce serait peut-être 500 $ aujourd'hui. On devrait peut-être réajuster ce 100 $-là, mais normalement, un liquidateur ne serait pas tenu d'énumérer les biens personnels, objets de peu de valeur à l'intérieur de l'inventaire.
Ouais. Mais on pourrait le faire quand même si, exactement. Par exemple, je donne l'exemple, là, moi, quand ma mère est décédée, sa bague de mariage, elle vaut rien, mais elle a une valeur pour,
oui,
nous. Tout à fait. Donc, elle est importante.
Tout à fait.
Fait que là, on pourrait le mettre, oui. là-dedans quand même.
Oui, exactement. Exactement.
OK.
Oui.
OK, super. Puis là, c'est pas comme... t'as pas à décider pour chaque objet à qui ça va. On peut mettre ça dans des lots ou de dire on met tout ça ensemble puis on sépare ça soit entre les enfants. Soit...
Oui,
je comprends,
exactement.
Bien.
Oui,
tu vas être sûr.
C'est ça.
Parfait.
Souvent, quand il va y avoir des enfants mineurs, bien, tu sais, évidemment, là, les biens qui sont susceptibles de perdre de la valeur avec le temps, comme les autos,
mais oui,
ces choses-là, tu sais, souvent, la succession va être liquidée. Le liquidateur va vendre les biens à leur juste valeur marchande, va récolter les liquidités, va payer les dettes, puis après coup, c'est de l'argent qui va être plutôt placé au bénéfice de chacun des enfants et remis. Okay.
Puis ça, on peut le décider quand on fait notre testament?
Oui.
Oui, pour pas laisser tout ça aux enfants là, à faire ça. Là.
Exactement, exactement. Okay. Non, c'est ça, les enfants mineurs, souvent, tu sais, il y a peut-être des biens de peu de valeur ou des souvenirs qui vont être partagés équitablement avec les enfants, mais c'est pas eux qui vont avoir le pouvoir décisionnel par rapport à qu'est-ce qui va être vendu ou pas. Là. C'est plutôt le liquidateur qui va avoir la discrétion de ça, là. Non.
Est-ce que dans nos successions, on peut léguer des choses avant de mourir? Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je me dis, bon, j'ai une motoneige,
oui.
Puis là, je fais, bon, ben là, je suis rendu à 85 ans, j'en fais plus. Je pourrais la vendre, mais je vais t'adonner, ça va faire partie de ton héritage.
Oui.
Souvent, faire ça?
Ben oui, oui, souvent. Puis les gens, on dirait qu'il y a une tendance, on dirait, depuis les dernières années, où est-ce que je vois beaucoup de gens, tu sais, des fois, ils vont vendre leur maison. Au lieu de déposer ça dans leur compte bancaire en entier, des fois, ils vont dire, ben regarde, à Noël, je vais remettre 5 000 à chacun de mes enfants. On dirait que les gens préfèrent justement voir la réaction de leur vivant puis voir les projets de vie que leurs enfants ou même leurs petits-enfants vont réaliser avec ces sous-là, là, finalement. Oui, c'est des choses qu'on voit.
Ça, c'est des choses qu'on peut faire.
Oui, tout à fait.
Bon, on a un peu fait le tour de ce qui se passe, ce qu'il y a dans un testament ou on a des angles morts dont on a
parlé? On a parlé des legs principalement, oui. On a parlé des clauses funéraires qu'on peut avoir à l'intérieur du testament. Oui. On peut avoir la clause aussi du consentement ou du refus au don d'organes. Exactement. On va mettre des clauses, comme je disais, pour permettre au liquidateur d'avoir une meilleure compréhension de ses tâches à venir dans le contexte de la liquidation de la succession, pour régler la succession.
Oui,
des
oui.
clauses que le notaire va mettre là, souvent à l'intérieur du testament pour s'assurer que ça se passe bien. Des fois, on va pouvoir rémunérer notre liquidateur à l'intérieur du testament. C'est-à-dire que la loi prévoit toujours une base. C'est-à-dire que dans la loi, dans le Code civil du Québec, ce qui est prévu, c'est que le liquidateur, qui est en réalité un administrateur des biens de quelqu'un d'autre, la personne décédée, va pouvoir aller chercher le remboursement de ce que ça lui coûte, le remboursement de ses dettes. OK, je donne un exemple. Si le liquidateur paye le repas après la cérémonie à la maison funéraire, bien évidemment, il va se faire un reçu à son nom, puis après coup, il va pouvoir se faire rembourser en priorité. Mais on va plus loin que ça. Si notre liquidateur de succession reste à Québec puis doit descendre au lac Saint-Jean 4 fois, il doit prendre un hébergement parce qu'il n'y a pas d'hébergement, etc., bien les dépenses occasionnées dans l'exécution de ses fonctions vont pouvoir être remboursées dans le cadre de la liquidation de la succession en priorité avant la remise des biens là,
finaux. Biens aux autres.
Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça coûte quelque chose à notre liquidateur pour faire ce travail-là. Mais si on veut aller plus loin, on peut même rémunérer notre liquidateur, soit en fonction d'un taux horaire. C'est sûr que là, ça implique qu'il doit établir une liste de ses heures.
Combien de temps ça prend?
C'est ça. Souvent, ce qu'on va voir, c'est un montant forfaitaire.
OK.
OK? Un 2 500, je donne un exemple. Puis ce 2 500, on peut l'indexer même au coût de la vie à partir de l'année du testament. Ça veut dire que là, on dit, bien, OK, je fais mon testament en 2024, je prévois un 2 500, mais si je décède en 2040, est-ce que ce 2 500-là va valoir la même chose en 2040?
Fait
que des fois, on va l'indexer au coût de la vie pour que ça représente le même montant d'argent là, au final. Ça, c'est le genre de clause qu'on peut voir aussi à l'intérieur du testament. On a parlé brièvement tout à l'heure de la nomination du liquidateur.
Ouais.
Et souvent, on va nommer un liquidateur. Des fois, on peut nommer 2 liquidateurs conjoints.
OK.
Sauf que là, le danger de nommer 2 personnes, c'est qu'il y en a une qui dise blanc ou dise noir. Fait qu'il peut avoir conflit, mais il y a des mécanismes qu'on peut mettre pour nommer un liquidateur, tu sais, un petit peu pour trancher là, certaines décisions qui pourraient ne pas être prises à l'intérieur d'un délai de 30 jours ou un litige qu'il pourrait y avoir. Il y en a qui nomment 3 personnes. C'est sûr que là, ça implique un petit peu plus de gestion. Puis, il faut pourvoir à leur mécanisme de remplacement à ces personnes-là. C'est-à-dire que si je nomme un premier liquidateur en premier, bien évidemment, le notaire va dire « Ouais, mais si, il décède, il est inapte, il refuse avant d'agir. » Ou si la personne a des problèmes de santé puis c'est trop difficile pour elle de gérer tout ça, bien là, on va avoir des remplaçants. Souvent, on va peut-être se rendre à 3 personnes, là, au moins, là, pour être certain d'avoir un bon échantillonnage de proches. Là. Puis, tu sais, c'est pas, je parle de proches, mais tu sais, c'est pas juste de la parenté qu'on est obligé de nommer à l'intérieur du testament. Ça peut être des amis de confiance qu'on a, tu sais, je veux dire, des personnes qui font partie de notre entourage puis en qui on a confiance, finalement.
Oui, oui. Okay.
Donc, ça, la clause de nomination de liquidateur. La clause d'administration, quand on a des enfants mineurs ou des personnes qui sont handicapées, sous tutelle, curatelle, c'est des choses qu'on va pouvoir prévoir pour gérer ces liquidités-là à certaines étapes.
OK.
Donc, à l'intérieur du testament, si on en a parlé. Puis, clause de lecture du testament, à la fin, on peut mettre un peu n'importe quoi. Tout ce qui est... On peut à peu près tout mettre, sauf des choses qui seraient contre l'ordre public.
Oui, c'est ça. Il faut respecter la loi.
Oui, c'est ça. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un qui arriverait et qui dirait, notaire, moi, je lègue tout à mon conjoint, mais à condition qu'il ne se remarie pas.
Ouais, tu peux pas.
C'est contre l'ordre public.
Oui,
on
n'a
pas le droit de faire ça. Exactement.
C'est drôle, ça. Ça arrive?
Apparemment que oui.
je veux pas. Dans le cas où quelqu'un est inapte à donner son consentement, pour son testament. Tu sais, je ne sais pas, quelqu'un qui est tombé malade, qui n'a pas fait son testament, ça doit être des enjeux aussi, ça?
Bien, en fait, les notaires, nous, on doit vérifier l'identité de la personne qui signe. C'est pour ça qu'on vérifie toujours les pièces d'identité des personnes qui viennent signer. On doit vérifier la qualité de la personne qui vient signer. C'est-à-dire que si vous venez pour une entreprise, je dois vérifier que vous êtes d'humain habilité. Ou bien si, par exemple, quelqu'un signe pour une municipalité, je dois vérifier que la personne a la qualité pour venir signer puis qu'elle est d'humain autorisée. Et troisièmement, on vérifie la capacité de la personne qui vient signer.
Okay.
Donc, la capacité de la personne à donner un consentement libre et éclairé.
Oui, c'est ça.
Et c'est sûr que votre question est quand même large parce qu'il y a des nuances dans le Code civil du Québec en fonction du type d'inaptitude qu'on pourrait avoir. Fait que supposons qu'on a une personne qui souffre d'Alzheimer, la personne elle a des problèmes cognitifs, bien, c'est certain que là, lors d'une première rencontre, tu sais, je vais investiguer un petit peu, je vais poser des questions, je vais me promener dans le temps puis de l'espace. Puis des fois, ces personnes-là vont être accompagnées d'un proche. Hein. Mm-hmm. Puis des fois, ça ne facilite pas les choses parce que la personne va se diriger vraiment vers le proche parent à côté pour répondre. Bien, c'est ça. Fait que là, on n'a pas toujours les réponses à nos questions, mais c'est sûr que si j'ai des doutes par rapport à la capacité de la personne à signer, je vais me diriger vers le médecin ou un professionnel de la santé qui va pouvoir un petit peu m'orienter par rapport aux problèmes cognitifs de la personne. Je vais voir, est-ce que la personne est capable de comprendre ce qu'elle signe? Est-ce qu'elle est capable de donner un consentement à ce qu'elle signe? C'est sûr que si on parle d'une démence de type Alzheimer, probablement que je ne pourrais pas faire signer la personne puis il va être trop tard. Fait que, tu sais, il faut planifier nos papiers avant qu'il arrive quelque chose, avant qu'il soit trop tard.
Des fois, ça arrive vite.
Oui, ça peut arriver vite. Ça peut arriver, puis ça peut arriver même quand on est jeune. Fait que c'est faux de dire qu'on est trop jeune pour préparer notre succession, préparer notre situation si on devient inapte ou quoi que ce soit.
Moi, je vais donner l'exemple de ma mère. Quand on a appris qu'elle était malade, un mois après, elle n'était plus capable de communiquer. Donc là, elle avait déjà un testament, mais si elle n'avait pas eu, qu'est-ce que vous auriez fait? Tu sais, mettons, ça arrive, là, qu'est-ce qui se passe?
Il y a des situations, des fois, qui est trop tard, qu'on ne peut pas faire signer. Fait que malheureusement... Si là, on va faire face à une situation où est-ce qu'on n'aura pas nécessairement de testament lors du décès, et là, ça va être vraiment, on va se diriger vers une succession qui est de type légal. Donc, c'est le code civil qui va venir nous dire qui est dans quelle proportion, dans un contexte où, on va prendre votre mère comme exemple, si elle avait juste des enfants, bien évidemment, le résultat serait le même peut-être que ce qu'elle aurait voulu dans le testament. Donc, les enfants hériteraient.
Ouais.
Tous dans les mêmes proportions. Ça implique un petit peu plus de choses après. Tu sais, je veux dire, si on reçoit les résultats de la recherche testamentaire qui confirme qu'on n'a pas de testament, puis on a les enfants, bien évidemment, là, les enfants vont devoir aller rencontrer un notaire pour faire ce qu'on appelle une déclaration d'hérédité. La déclaration d'hérédité, c'est un document notarié dans lequel on va venir établir, bon, la personne est décédée, telle date, est-ce qu'elle était mariée ou veuve, etc. Et qui hérite selon la loi? Parce qu'évidemment, tu sais, quand on va régler une succession, je donne un exemple, on va à l'institution financière, qu'est-ce qu'ils vont nous demander souvent? C'est la preuve de décès, les résultats des recherches testamentaires et la copie du testament pour que la personne à l'institution financière ait le bon liquidateur de la succession, les bons héritiers, puis qu'on démarre ça de la bonne façon. Si on n'a pas de testament, bien là, on va voir quoi? On va voir la preuve de décès, on va voir les résultats de recherche testamentaire qui confirment qu'on n'a pas de testament. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire qui hérite?
Ben oui.
Qui va confirmer qu'il est liquidateur? Bien là, c'est le document qui va être fait chez le notaire après coup.
OK.
Fait que ça, c'est une étape supplémentaire après les résultats des recherches testamentaires. On va pouvoir expliquer où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et là, on va faire une rencontre avec la famille, puis on va identifier, demander les certificats de naissance des héritiers, puis vérifier là, pour faire cette déclaration-là là, qu'on appelle une déclaration d'hérédité. C'est un peu une invention parce que ça n'existe pas vraiment dans le Code civil du Québec. Mais je dirais que c'est plutôt une demande des différents acteurs dans le règlement de la succession, comme les institutions financières, entre autres, le gouvernement, qui vont demander un papier notarié dans lequel on identifie clairement les héritiers. Et normalement, les héritiers sont de plein droit les liquidateurs, mais souvent, dans ce même document-là, les héritiers vont dire « Bien, regarde, on nommerait mon frère qui habite à Dolbeau-Mistassini plutôt que tout le monde règle la succession ensemble. On nommerait mon frère comme représentant de la succession pour faire les démarches. » Des fois, on va faire une nomination de liquidateur à l'intérieur du
Ce serait le même. On ferait la même chose si, par exemple, moi, j'ai nommé mon je ne me rappelle même plus du site, là, testamentaire, mon successeur, mon liquidateur testamentaire. Oui. Puis, mettons, moi, je meurs. Puis là, on a oublié de revenir là-dessus, mais au moment où je décède, mon liquidateur, lui, il n'est plus apte à liquider. Fait qu'on ferait la même procédure.
Oui, en fait, dans le testament, souvent, il va y avoir des mécanismes de remplacement. C'est-à-dire que si c'est parce qu'on dit qu'il est plus apte parce qu'il veut refuser, souvent, on va faire un refus chez le notaire, c'est-à-dire que la personne va signer pour dire « moi, je refuse », et le remplaçant va signer pour dire « ben moi, j'accepte d'agir ».
Okay.
Par contre, si c'est une inaptitude officielle qui est confirmée par jugement puis qu'on confirme que la personne, elle est inapte, bien, ce jugement-là va valoir pour dire « bien, regarde, le premier liquidateur ne peut pas ». À ce moment-là, bien, là, on passe au second dans le testament. On n'aura pas nécessairement d'acte notarié à produire dans ce contexte-là. Ou si la personne, elle est décédée, mon premier liquidateur est décédé, bien, on va devoir avoir la preuve de décès officielle. Le liquidateur suppléant va devoir avoir la preuve de décès de la personne décédée, les certificats de recherche testamentaire, le testament et la preuve de décès du premier liquidateur.
OK. Hey, non, mais c'est plus compliqué qu'on pense.
Bien, si, c'est tellement du cas par cas. Là, fait qu'on peut se promener, on pourrait passer la journée ensemble puis avoir plein d'exemples puis essayer de les régler ensemble. Ouais. Mais c'est ça qui est stimulant, là, justement, là, dans notre travail. C'est qu'à tous les jours, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'avoir une nouvelle situation puis d'essayer de la régler. Fait que c'est des beaux défis.
Je reviens sur le début de l'entrevue. Oui. Où tu as dit des fois, tu as dit quelque chose, puis là, je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est une bonne question pour les gens qui écoutent. Si on est conjoint de fait, on n'est pas marié. C'est quoi la différence légale entre ces deux cas d'espèce-là? Tu sais, par rapport à la succession, au testament, si je suis marié, il y a comme une filiation directe, mais si je suis conjoint de fait, il n'y en a pas. C'est ça que je comprends?
Exactement. Le conjoint de fait, dans la loi, quand je dis la loi, c'est le Code civil du Québec, oui. OK? C'est comme un voisin. C'est plate à dire, là. Mais notre conjoint de fait avec qui on vit, ça a beau faire 15 ans, il n'est pas reconnu dans le Code civil du Québec. À faire attention, il y a une nuance avec les rapports d'impôts puis avec la fiscalité au Québec.
Okay.
Fiscalement parlant, le conjoint de fait, il est reconnu.
Okay. Okay?
Donc, si je cohabite avec mon conjoint depuis plus d'un an, bien, mes prestations d'allocation familiale vont s'ajuster en conséquence. On va avoir un revenu familial, on va être reconnu à ce niveau-là. Le conjoint de fait va être reconnu aussi dans le contexte de la rente de conjoint survivant, au niveau de la régie des rentes du Québec.
Okay.
Si le conjoint de fait décède, bien évidemment, le conjoint de fait va avoir le droit quand même aux prestations de conjoint survivant s'il se qualifie dans la loi par rapport à ça. Mais quand je parle du Code civil du Québec, là, c'est qu'il n'est pas reconnu pour hériter de tout le reste, du patrimoine et tout ça. Donc, il n'est vraiment pas...
Puis pourquoi c'est comme ça? C'est vraiment juste parce qu'on ne l'a pas changé? Ou...
Bien, oui. En fait, là, le gouvernement est en processus d'une réforme au niveau du droit de la famille depuis plusieurs années. C'est encore en discussion, ça n'est pas encore officialisé,
mais ça date.
On parle de 1994, la dernière réforme, là. Le nouveau Code civil du Québec date de ces années-là.
Il me semble qu'on se marie de moins en moins, fait que ça. Il me semble qu'il y aurait une des avantages. Ça serait quoi les inconvénients? Pourquoi ça serait quoi l'avantage de garder ça comme ça? Il n'y en a pas.
Il n'y a pas vraiment d'avantage, je vous dirais.
La beauté du gouvernement. On ne comprend pas pourquoi, mais il n'y a rien que des avantages à changer, mais c'est long de faire
mais
les changements.
Ça, on devrait, tu sais, parce que vu qu'on a un traitement du côté fiscal qui est différent, des fois, ça porte à confusion pour monsieur,
oui,
madame, tout le monde.
Certain, moi, que c'était
la même chose. Tu sais, on se fait dire, OK, ça fait. On cohabite depuis plusieurs années, on est reconnu, mais d'un autre côté, si on ne va pas consulter un notaire ou si on n'est pas informé, on peut penser que finalement tout va être réglé pour la maison, puis qu'on va hériter, puis que c'est comme si on était marié, mais finalement non. Puis même si on se marie, c'est juste une célébration sans faire de contrat de mariage ou de testament, le fait d'être marié ne réglera pas tout. Comme je disais dans mon exemple au début de l'entrevue, c'est que si il n'y a pas d'enfant dans le contexte, puis qu'on a des frères et sœurs, bien là, les frères et sœurs peuvent venir chercher une partie,
aussi,
etc. Là. Fait que si on n'a pas de contrat de mariage dans lequel on aurait une clause testamentaire ou de testament, bien le mariage ne règle pas tout.
OK. Ça donne un statut différent, mais ça ne règle pas tout.
Oui.
Vous êtes beaucoup dans les exceptions, j'ai l'impression, quand vous travaillez.
Oui, oui. notre travail, c'est toujours de dire « oui, mais si ». ».« Oui, mais si ». S'il arrive ça.
C'est de tout prévoir, en fait, pour que personne ne se fasse…
Oui, c'est d'essayer d'étancher un petit peu toutes les situations, là, toutes les choses qu'il pourrait y avoir ou les sources de conflits potentiels. Des fois, dans les entrevues, des fois, les gens veulent quelque chose, nous proposent quelque chose, ont quelque chose, une idée claire dans la tête. On essaie de respecter leur volonté, mais des fois, on va orienter un peu la discussion pour s'assurer que ces sources de conflits-là ou ces sources d'interprétation-là ne soient pas là à l'intérieur des documents qu'on prépare. Parce qu'évidemment, bien, quand il y a source d'interprétation, bien évidemment, il y a quelqu'un qui peut dire blanc, puis l'autre peut dire noir, puis là, on peut se chicaner par rapport à ça.
On peut-tu contester un testament?
Oui.
Oui?
Tout à fait. Bien, un testament notarié, je vous dirais non.
OK.
Mais là, ça nous ouvre une porte vers quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est les formes de testament.
Oui, OK.
On n'a pas parlé de
ça.
Non,
mais OK, on va y aller, il nous reste du temps.
Oui, c'est ça. Les formes de testament. Donc, le seul testament qui est authentique au Québec, c'est le testament notarié.
OK, c'est donc fait par un notaire.
C'est ça. Il existe trois formes de testament. On va commencer par la première forme, qui est le testament holographe. Ça, c'est un testament qui est entièrement écrit de la main de la personne qui le fait, pas par son conjoint puis lui, il signe. Entièrement écrit de sa main, daté et signé. Puis là, on ne parle pas de témoin à cette étape-ci. Donc, moi, si je dis, Aujourd'hui, moi, Sabrina Martel, je fais mon testament comme suit. Je lègue tous mes biens à mes enfants, etc. Puis je nomme telle personne comme liquidateur. Daté signé. C'est un testament. Ensuite de ça...
Mais y a-t-il une validité, ce testament-là?
J'y reviens.
OK. Correct.
J'y reviens. Ensuite de ça, le deuxième forme de testament, il y a le testament devant témoin. OK. Okay? Donc, ça peut être écrit par un moyen technologique ou par un tiers. Donc, l'important, c'est d'avoir deux témoins.
OK.
OK? Deux témoins clairement identifiés, puis idéalement qu'on est capable de retrouver plus tard pour les raisons que je vous expliquerai tantôt. Puis, le testament devant témoin, c'est aussi le testament qu'on retrouve aussi qui peuvent être faits par les avocats.
OK.
Testament devant témoin. Donc, fait qu'écrit par un moyen technologique, daté. C'est des fois des formules aussi qu'on peut retrouver là, sur Internet, là, oui. Qu'on signe avec témoin. Et la troisième forme de testament, bien, c'est le testament notarié qu'on connaît, standard, fait par un notaire. Puis lui, il vaut comme un document, comme on dit, authentique. Il n'y a pas besoin de vérification au moment du décès. Les deux premières formes que j'ai parlé, le testament holographe, le testament devant témoin, doivent être vérifiées.
OK. Okay?
Doivent être vérifiées dans un contexte de... C'est une procédure qui est judiciaire. L'objectif de cette vérification-là, c'est de s'assurer de la validité du testament par rapport à sa forme. Est-ce qu'il respecte les prescriptions de la loi, ce que je vous ai donné comme critère tout à l'heure par rapport à la forme? Et est-ce qu'on est certain que c'est la personne elle-même qui l'a signé?
Oui, ça doit être encore plus difficile, là, les testaments holographes.
Exactement. Bon, madame, une tante qui a beaucoup d'argent, elle a fait son testament dans les années 80 en nommant tous ses neveux et nièces, mais là, elle a un neveu qui va pas mal la visiter à l'hôpital puis qui prépare un petit document puis il fait signer là, avant de décéder. Ouais. C'est un contexte comme ça. L'objectif de cette vérification-là va être d'envoyer une copie du testament à toutes les personnes nommées dans le testament, mais aussi à toutes les personnes qui, en l'absence de ce testament-là, auraient pu hériter.
Okay.
Fait que dans un contexte d'une madame qui a plein de neveux et nièces, le neveu mentionné dans le testament va recevoir la vérification du testament, mais tous les neveux et nièces déshérités aussi. Et là, c'est là que le plaisir commence. Mais
le plaisir.
Oui, c'est ça. Mais nous, les notaires, on peut agir dans ce contexte de vérification-là. Moi, j'ai une accréditation qui me permet de les vérifier, les testaments.
Okay.
J'ai suivi un cours supplémentaire qui me permet de vérifier les testaments de cette façon-là. Par contre, dès qu'il y a conflit qui vaut comme une contestation réelle du testament, quelqu'un qui dirait « ben c'est pas ma tante qui a signé, je reconnais pas son écriture, c'est pas sa signature, c'est sûr », ou « ma tante, elle était médicamentée, elle prenait elle était sous les gros calmants, puis c'est sûr qu'elle a pas compris ce qu'elle a signé ». Mais là, moi, si je reçois une contestation réelle de cette forme-là, moi, je me dessaisis du dossier et c'est les avocats qui entrent en ligne de compte. Parce que nous, les notaires, on peut agir juste quand il n'y a pas de conflit, quand c'est non contentieux.
OK.
Donc,
c'est pour ça que quand c'est un testament notarié, il n'y a pas de conflit.
Oui, mais il n'y a pas de vérification.
Il n'y a pas de vérification.
Les deux premières formes, comme je vous disais, doivent être vérifiées dans ce contexte-là. Puis après la vérification, tu sais, il y a quand même un coût. Là, tu sais, on peut parler facilement de 1 000 de coût pour vérifier le testament. Donc, c'est faux de dire qu'un testament coûte cher dans ce contexte-là. Parce qu'en réalité, c'est la succession qui va payer beaucoup plus de frais si on ne fait pas un testament notarié. Je peux peut-être vous dire à peu près une approximative de coût parce que c'est souvent une bonne question que les gens se posent aussi. Là. On peut parler d'un 400 $ là, environ, là, plus les taxes là, pour un testament. Là.
Oh.
C'est ça. Des fois, quand
m'attendais à plus que ça, je vais être honnête.
Des fois, quand le couple vient lors d'une même rencontre, tu sais, un testament quand même simple, notre temps de rencontre va être un petit peu moindre. Fait que des fois, là, après la première rencontre, des fois, on va dire ah, le testament va revenir un petit peu moins cher là, pour le couple dans ce contexte-là. C'est des choses qu'on peut voir.
Fait que c'est génial. Merci beaucoup, Sabrina Martel.
C'est tout.
C'est déjà terminé. Je l'avais dit que ça allait passer vite.
Oui.
J'espère que si vous aviez des doutes ou si, je ne sais pas, votre conjoint a des doutes de dire « Ah, je ne suis pas proche de mourir, pas besoin de faire un testament », qu'on vous a convaincu que c'était important et que ça allait simplifier beaucoup votre après, ce qu'on ne vous souhaite pas pour bientôt. Merci, Sabrina Martel, notaire et propriétaire de CSM Notaire qui ont des bureaux à Dolbeau-Mistassini et à Normandin. Et merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.
œufs, tes plures de cocon, ton restant spaghetti, tes marinades, tes vieilles carottes, tes échalotes, ta bouffe passée date, swing ça dans le bac. Le plastique, c'est toujours non, pis ça, c'est sans exception. 5, 4, 3, 2, 1, je t'impose du bac brun.
On jette pas tout
le temps. Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur, le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse, pis c'est pas un bac à canette pour des restes dans l'assiette.
Et rappelle-toi que
le plastique,
les gaz du bac.
5, 4, 3, 2, 1, ta grosse bac brun.
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.